écoutez le studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue au journal en français. Je suis Rafika Taher à la présentation. À la une ce soir, le président du CNSP a reçu hier l'Union des scolaires nigériennes. À l'ordre du jour, plusieurs points concernant l'éducation. Vous aurez dans un instant des précisions avec le secrétaire général adjoint de l'USN. La semaine du numérique a débuté hier. L'État du Niger envisage d'initier un projet de village intelligent pour soutenir les efforts de quelques secteurs clés du pays. Les détails dans ce journal. Et la partie magazine de ce soir va porter sur le portrait d'une passionnée de kakaki, un instrument de musique traditionnel. Hier, jeudi 18 avril 2024, l'Union des scolaires nigériennes a été reçu en audience par les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en présence du président du CNSP, le général de brigade Abdrahman Tiani. Au cours de cette audience, plusieurs points concernant l'éducation ont été au centre des échanges entre le CNSP et l'USN. Écoutons Ibrahim Abdoulaye, secrétaire général adjoint du comité directeur de l'USN, au micro de Ali Munkaila Ousseini.
Et cette audience qui nous a été accordée a été mise à profit par l'Union des scolaires nigériens pour faire une présentation succincte des difficultés auxquelles font face les différentes universités publiques du Niger, les différents établissements secondaires, professionnels et même les difficultés des scolaires nigériens qui sont à l'extérieur. Nous avons en tout cas mis à profit cette occasion pour rappeler au président de la République les questions sur lesquelles le CNSP devait agir. Grande fut notre surprise de voir lors des réponses que le président du CNSP a brossé de façon claire les différents mots qui assaillent le système éducatif nigérien et à l'issue des échanges, des engagements forts ont été pris.
L'État du Niger, à travers son ministère en charge des postes et télécommunications, a initié le projet Village Intelligent pour soutenir les efforts de croissance dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la santé et l'accès aux services finances pour le bien-être des populations. Madame Souleyha Wa Ansi sur les impacts du projet au sein des communautés nigériennes. Elle est au micro de Ali Niali Abdulmoumouni.
Nous avons mis en place 113 centres numériques. C'est un effectif de 150 qui est prévu. On peut voir le changement qui a été apporté grâce aux initiatives du projet PVI. Ce sont des populations qu'on a rencontrées qui, avant, n'avaient pas de connexion au réseau. Certains nous expliquaient qu'ils parcouraient peut-être 3 km, 6 km pour aller avoir les réseaux, pouvoir appeler leurs proches. Aujourd'hui, ils sont chez eux, ils arrivent à communiquer avec leurs proches, ils arrivent à faire du mobile money, transférer de l'argent. Nous avons rencontré des femmes qui comprennent mieux aujourd'hui comment elles peuvent utiliser le mobile money pour gérer leur activité, qui comprennent comment ils peuvent améliorer déjà leur gestion quotidienne parce qu'on leur apprend des notions de base de la finance, de la gestion de leur activité. C'est quoi les crédits, c'est quoi les dépôts, les budgets, autres, qu'ils la mettent en pratique dans leur activité quotidienne et créer un certain développement économique.
Le numérique a aussi apporté une contribution très conséquente dans le développement et l'évolution du 7e art au Niger, une des raisons qui a motivé l'association des cinéastes et cinéphiles nigériens à participer à la semaine du numérique. Écoutons M. Bouba Djengarey Maïga, membre de cette association, au micro de Ismaël Adjibo.
Il y a un secteur où le numérique a vraiment boosté, a amené vraiment de l'innovation. Je pense que c'est surtout le cinéma. Parce que vous savez, le cinéma, avant, quand il n'y avait pas le numérique, pour faire un film, c'est tout un problème. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a des gens qui font du cinéma à travers juste les téléphones. Avec le numérique, aujourd'hui, quand tu tournes un film, quel qu'en soit le budget, quelle qu'en soit l'envergure de la production, la post-production ne peut pas te fatiguer comme avant où il n'y avait pas le numérique. Parce qu'aujourd'hui, on tourne avec des cartes, on tourne avec des disques durs, tout ça. Quand je me rappelle à l'époque avec le vieux, c'est la pellicule. Rien que pour développer, voir tes images, à quoi elles ressemblent, il faut envoyer au laboratoire. Ça coûte cher le développement. On ne développe pas ici au Niger. C'est autre chose, quoi. Tu vois, maintenant, avec le numérique, tu peux programmer ton film en un mois, deux mois.
Dans un rapport publié par l'ONG suisse Public Eye le 17 avril 2024, la multinationale Nestlé est accusée de commercialiser des produits contenant du sucre ajouté dans les pays pauvres, à savoir en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les résultats de l'enquête révèlent que presque toutes les céréales pour bébés, Cerelac, de même la plupart de lait en poudre Nido pour enfants, contiennent du sucre ajouté. Ces produits sont pourtant destinés à des bébés dès l'âge de 6 mois concernant Cerelac et dès 1 à 3 ans pour le lait Nido. Dans le rapport, l'ONG indique que l'OMS avertit qu'une exposition précoce au sucre peut créer une préférence nocive pour les produits sucrés qui durera tout au long de la vie, ce qui augmente le risque de développer des problèmes de santé. L'artisanat et la résilience, c'est le thème de la troisième édition du Salon pour la modernisation économique et la formation pour l'artisanat d'art, ouvert jeudi 18 avril à Agadez. Cette édition se tient dans un cadre particulier avec pour objectif de redonner l'espoir aux artisans de la région d'Agadez pour vivre dignement de leur travail, explique Tanarissa, présidente du comité d'organisation du Salon, au micro de Moussa Maman.
Nous avons organisé ce salon pour notre communauté, pour notre pays, dans un seul but de se développer par notre moyen propre. C'est pour cette façon que nous allons arriver à s'autofinancer, à avoir notre indépendance financière, à avoir notre indépendance morale, à être toujours responsable de notre vie, à être toujours très présent dans la vie de notre société. C'est dans ce cadre que nous, aujourd'hui, nous sommes fiers et représentons tous les artisans, amateurs de l'art, amateurs de l'artisanat. C'est pour aussi dire à la communauté internationale que le Niger pense bien sur ses propres moyens. C'est pourquoi l'artisanat étant un moyen qui absorbe le chômage, nous sommes obligés d'apporter toutes les solutions pour que notre jeunesse puisse avoir un espoir pour aller vivre dignement de son travail.
Lancement officiel ce matin de la caravane de vaccination gratuite du cheptel dans le département d'Arlit. Environ 150 000 têtes de petits ruminants, 2 000 têtes de bovins et 2 000 à 3 000 têtes de camelins vont être vaccinées gratuitement. Selon le secrétaire général de la préfecture d'Arlit, M. Al-Husseini Azimzim, qui a présidé la cérémonie, cette opération va durer 4 mois et va concerner toutes les communes du département. Nourissa Alissou, directeur adjoint du service départemental de l'élevage, explique au micro de Gungu Mohamed Dantani.
La caravane gratuite de vaccination du cheptel dans le département d'Arlit. Au niveau de la commune urbaine d'Arlit, nous avons engagé deux équipes. Une équipe au niveau de la commune urbaine d'Arlit et une deuxième équipe au niveau du village d'Akokan. Nous allons démarrer par la commune de Gougaram, après celle de Danet. Pour ce qui est donc des objectifs à atteindre, pour cette année, nous nous sommes fixés un objectif d'environ 150 000 têtes de petits ruminants à vacciner contre la peste des petits ruminants. 2 000 têtes de bovins contre la péripneumonie contagieuse bovine. Et également, il y a une troisième vaccination qui concerne les camélins. Nous nous sommes fixés un objectif d'environ 2 000 à 3 000 camélins à vacciner contre la bacillose des camélins.
Le manque de stations-service à Matamaï, département de Kanché, dans la région de Zender, favorise la flambée des prix de carburant sur le marché noir où le litre se vend à 650 francs CFA. Cette cherté du carburant impacte négativement les passagers. Suivez ce reportage de Habou Sarki Saleh.
Le prix du carburant sur le marché noir à Matamaï, dans le département de Kanché, a conduit les transporteurs à augmenter sur les frais de transport. En effet, le prix du litre d'essence est passé de 300 à 650 francs CFA. Pour Idi, un voyageur incapable d'effectuer son déplacement suite à cette augmentation, les conducteurs doivent revoir les frais de transport en fonction de la situation qui prévaut dans le pays.
Les frais de transport ont augmenté. Si vous cherchez à négocier, ils vont vous dire sèchement que le prix du carburant a augmenté. C'est vrai, si le prix du carburant est en hausse, eux-mêmes vont augmenter les frais du transport. Mais il faut tenir compte de la situation du pays. Ce qui n'est pas bon, même si le prix du carburant a chuté, eux, ils gardent toujours le même frais du transport.
Selon Issa, vice-président du syndicat des transporteurs voyageurs de Matamay, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont augmenté ces prix. Mais c'est parce qu'en plus des multiples charges qu'ils supportent, les tracasseries routières ne changent pas.
C'est une situation indépendante de notre volonté. Nous aussi, nous voulons voir les choses s'améliorer pour les passagers et pour nos chauffeurs, car il y a d'autres paramètres qui font que les frais du transport augmentent. Le prix du carburant est en hausse, donc c'est normal que les frais du transport augmentent aussi. À cause de cette situation, il y a beaucoup de chauffeurs qui ont garé leur véhicule.
Situé dans la commune urbaine de Filengué, région de Tillabéri, la station expérimentale de Toukounous fait face depuis quelques années à des difficultés d'insuffisance de pâture. En 2023, c'est à partir de Niamey qu'on achemine la paille pour nourrir quelques 300 têtes que dispose le centre. Ces difficultés sont liées certes au changement climatique, mais aussi à la pratique de ramassage de paille par les populations avoisinant le ranch. Cette année encore, le ranch traverse les mêmes difficultés, mais des dispositions sont prises pour faire sauvegarder le bétail, selon Iliasou Yahaya Danfalke, directeur du centre d'expérimentation de Toukounous, au micro de Abdoulaye Bagassa.
La station a connu des difficultés l'année passée. Même cette année, il y a presque les mêmes difficultés. Mais il y a des dispositions qui ont été prises. Il y a un peloton qui sécurise l'endroit pour empêcher les vols de la paille. Et la chance, le directeur sortant de la station, c'est lui qui a été nommé DG. Donc il est toujours à pied d'œuvre pour qu'on trouve des solutions afin d'endiguer ce problème de pâturage qu'on a. Donc d'ores et déjà, il y a eu des aliments composés qui ont été amenés un peu au préalable. Et grâce au gouverneur de la région qui avait visité l'endroit, il y a eu le premier ministre aussi qui a visité l'endroit. Il y a vraiment des dispositions qui sont en train d'être prises au niveau supérieur et au niveau de la direction générale pour vraiment solutionner le problème de la paille.
La Confédération africaine de football a effectué ce matin à Abidjan le tirage au sort du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se déroulera à Accra du 15 au 28 mai. Dans la zone UFOA-B, 7 pays participeront et le Niger est logé dans le groupe B aux côtés du Nigeria, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Mamadou Bachir Hassandi, coach Arizona, sélectionneur MENA 17, nous donne ses impressions sur ces adversaires au micro de Salamatou Kadri.
Ce qu'il faut dire, il n'y a pas de poule facile. Toutes les poules sont difficiles. Il nous appartient à nous de travailler dur et de nous préparer pour affronter nos adversaires désormais connus dans la compétition qui va démarrer dans quelques jours. Nous sommes déjà en préparation et le fait de connaître nos adversaires va encore plus nous motiver à travailler dur et à prendre toutes les dispositions pour pouvoir être prêt le jour J pour affronter nos matchs. Et l'objectif pour nous, c'est se qualifier à la fin des phases de poule afin d'accéder demi-finale et pourquoi pas jouer la finale de ce tournoi de l'IFOA-B.
Nous sommes dans la deuxième partie de cette édition. Né vers 1981 à Birnin Kwani, dans la région de Tawa, Fatima Maman joue encore avec passion le kakaki, un instrument de la musique traditionnelle qu'elle a hérité. Elle a abandonné l'école après l'obtention de son BEPC pour se consacrer exclusivement à son art. Notre correspondant de Kwani, Abdoulaye Harouna, est allé à la découverte de cette dame. Écoutons leur entretien.
Fatima Maman est une joueuse de kakaki, un instrument de la musique traditionnelle hérité de ses parents. C'est avec la musique de cet instrument que la télévision nationale ouvrait ses programmes un moment. Aujourd'hui âgée de 43 ans, Fatima jouait le kakaki depuis l'âge de 7 ans.
Jouer du kakaki, je l'ai hérité de mon père et lui aussi l'a hérité du sien. De tous ses enfants, je suis la seule à en jouer et cela depuis que j'ai 7 ans. Cela fait à peu près 20 à 25 ans que je joue de cet instrument. Le son du kakaki qu'on utilise à l'ouverture des programmes de la télévision nationale et lors de la fermeture, c'est mon grand-père qui en jouait.
Jouer cet instrument est un prestige et il ne se joue que pour les familles royales, indique la joueuse.
On ne joue pas du kakaki à n'importe qui, peu importe ta richesse. Cela est réservé à la royauté ou le gouvernement, ou par exemple les notables de la cour royale. Sinon, seul le roi y a droit, sa famille ou ceux qui sont de sang royal.
Sara Toumama, la sœur cadette de Fatima, elle n'est pas initiée à cet instrument, bien qu'elle l'admire beaucoup. Elle indique ses souvenirs de son père quand sa sœur joue kakaki.
Quand elle joue le kakaki, ça me plaît beaucoup car elle me rappelle.
C'était l'entretien rendu par Tarnal Foudaï Ahmed.